Syrie se terminer, où le conflit au Yémen trouvait une issue, où celui de Libye s'apaisait. Je le dis souvent ici, est-ce que nous suivons avec autant d'intérêt le travail de réconciliation mené par beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde? Sommes-nous capables de citer des accords de paix ces dernières décennies? Nous nous souvenons peut-être de ce qu'on a appelé l'accord du Vendredi Saint, qui est l'accord de paix en Irlande du Nord, signé en 1998, moment important dans l'histoire de l'Europe. Sans être dupe de l'intérêt des uns et des autres dans un compromis qui aboutit à la paix, je peux mettre en évidence cet été l'accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, impensable il y a quelques dizaines d'années, ou bien l'accord de paix qui a eu lieu au Soudan cette semaine. Ce conflit nous avait fait connaître l'existence du Darfour, cette région qui a beaucoup souffert. Combien d'efforts et d'énergie a-t-il fallu mettre dans ces négociations entre les différentes parties? Plusieurs pays ont été invités, le Soudan du Sud, le Tchad, l'Éthiopie, ainsi que les États-Unis, la Norvège, la Grande-Bretagne, pour ce qui concerne cet accord de paix au Soudan. Et quand j'ai nommé ces pays, il faut penser aux hommes qu'il y a derrière. La volonté de tous les hommes, et j'espère femmes, qu'il y a derrière pour aboutir à la paix. Des médiateurs anonymes, invisibles, persévérants, qui œuvrent dans le monde entier. Et il faut bien reconnaître qu'il est bien plus rapide de tuer un homme que de prendre le temps de se réconcilier avec lui. Et c'est bien ce que nous montre la Bible dans le premier péché de l'histoire racontée par la Genèse, qui est le meurtre de Caïn sur Abel. Il nous arrive d'être lâches dans nos relations et nous les laissons se détériorer, alors qu'elles sont pourtant la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Et on l'a entendu encore dans Romains, dans Lévitique, cet amour. Et si l'amour est un commandement, ce n'est pas par hasard, parce que c'est juste impossible de se l'appliquer par nature. On a besoin d'aide. Ça demande tellement d'efforts. À notre échelle personnelle, quelles sont nos guerres? Quelles sont nos relations bloquées? Quelles sont nos relations difficiles? Y a-t-il des cercles où ça coince, des cercles de famille, des amis, au travail, à l'église, même? En tout cas, quand on lit ce texte d'aujourd'hui, on se dit qu'il ne faut pas avoir d'illusions sur la façon dont les premières églises ont été constituées. Dès le départ, il y avait des conflits. Dès le départ, il a fallu proposer une démarche pour résoudre les conflits, pour apaiser les situations des tensions. Et ce chapitre est intéressant parce qu'au début de ce chapitre, eh bien, on est alerté sur le fait les scandales sont inévitables. Mais Jésus dit quand même malheureux le monde qui cause tant de chutes. Et ensuite, on a la parole de la brebis perdue. Donc, du coup, cet effort pour aller chercher celui qui s'est perdu, vous avez entendu dans le texte que nous avons, dans notre passage, mais l'accent sur l'écoute et la parole dans une rencontre et tu auras gagné ton frère. Et c'est ça, finalement, qui va être le plus important. Ne pas écraser l'autre, mais chercher à gagner l'autre, à gagner non pas dans un rapport du plus fort contre le plus faible, mais essayer d'avoir un rapport de non-blanc. Et du coup, c'est assez original. Cette première étape dans ce texte est assez originale, parce que à la même époque, on avait la communauté de Qumran, dont vous avez peut-être entendu parler, on a trouvé des restes, des témoins, des textes qui racontaient les règles du Coran, et dans la règle du Coran, hein, il fallait exclure directement les pécheurs et aucune négociation possible. Alors, là, on a trois étapes. Et je ne vais pas m'arrêter sur le début parce que le texte dit ça au grand, si ton frère vient d'un péché, Et alors lui, si ton frère vient à t'offenser, on sait dans la vie que c'est tellement entremêlé que des fois on ne sait plus qui a commencé. Mais en tout cas, on a une responsabilité, c'est d'aller expliquer ce qui ne va pas. Et c'est pas la démarche la plus facile. Mais l'autre ne sait pas ce que je vis, il ne sait pas ce que je ressens, et du coup, le texte nous dit que c'est ma responsabilité de le lui dire, pour qu'il le sache. Parce que du coup, on ne sait pas. C'est de respecter moi-même, et c'est de respecter lui, et c'est prendre soin de cette relation qui est bien mal. Parce que tant que je suis liée à l'autre par indifférent, quelque chose bloque la relation. Et des fois, on préfère l'ignorer, on met ça sous un couvercle pour la mettre à côté, mais on sait bien que ça ne résout pas. Cette première étape est l'occasion de parler, de s'écouter. On sait que dans un conflit, eh bien, les versions sont toujours différentes selon les protagonistes. Et le travail des médiateurs, c'est justement de faire s'exprimer chacun pour qu'on entende comment l'autre a vécu la situation. Quand on regarde comment Jésus lui-même a géré ses relations, eh bien, il n'hésite pas à déceler les pièges, à dévoiler la fourberie de ses interlocuteurs au risque de provoquer leur colère. Alors, cette première rencontre face à face, c'est finalement peut-être difficile, mais c'est moins humiliante. Le frère ou la sœur a le choix d'écouter et d'en faire quelque chose. La balle est dans son corps, comme on dit. Et puis la deuxième étape, elle est mise en route quand l'autre n'écoute pas. Et là, dans cette deuxième étape, on retrouve les instructions du théologue qui parle de la déclaration de deux ou trois témoins pour instruire l'affaire de quelqu'un qui est péché. Dans cette deuxième étape, eh bien, on ne dit pas si l'autre écoute ou pas, on dit s'il refuse d'entendre. Voilà. Je ne vais pas développer, mais il y a aussi plusieurs niveaux d'écoute. Est-ce que j'ai entendu ce que j'ai écouté l'autre? Est-ce que j'ai entendu ce qu'il a dit? Et puis, ça peut être moi aussi qui reste enfermé dans ma position. Je dois aussi discerner les choses pour assumer d'un côté ma part de vérité et de l'autre côté mon erreur. Par contre, quand on en arrive à la troisième étape, ce que j'appelle le tribunal de l'Église, c'est toujours un échec. Et je me souviens, dans notre propre église, de certains pasteurs qui étaient sortis du rôle des pasteurs parce qu'ils ne pouvaient pas entendre les reproches qui leur étaient faits. Mais le texte ne s'arrête pas là. C'est pas un point final. Deux fois ensuite, Jésus va affirmer quelque chose de fort. Je vous dis que, amen. S'il dit ça, c'est attention, c'est le moment d'écouter. D'abord, au verset 18, après avoir expliqué la démarche, il remet à ses interlocuteurs la possibilité de la responsabilité de lire et de délivrer. Ça nous fait un peu peur, mais ça nous force à nous poser la question de quelle façon je suis liée à telle ou telle personne. Qui peut voir et délivrer des relations mortifères? Parce que contrairement à ce qu'on croit, quand on aide quelqu'un du verbe haïr, c'est qu'on est très lié par la haine. Est-ce que qui peut voir les déliés des relations mortifères, ou bien, n'est-ce pas ce que veut dire la libération des esprits mauvais? On voit Jésus qui libère les esprits mauvais. Bien, quand je suis lié à une personne parce qu'elle m'a fait mal, elle m'a infligé quelque chose, et du coup, je reste sur son pouvoir, je reste sur sa domination. Jésus veut qu'on se délivre de ça. Et c'est aussi pour ça que l'annonce du pardon a tellement d'importance dans nos églises pour se délier de la culpabilité. Jésus veut nous faire marcher vers la liberté. Et il nous invite à recevoir ce don et peut-être cette intelligence aussi du cœur et de l'esprit pour aimer dans la vérité et dans la liberté. Et puis au verset 19, il nous donne une deuxième clé, une autre clé. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par le Père et les cieux. Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu. Et juste après, on a tout un message sur l'importance du pardon. Donc cette petite phrase, deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu, on la cite souvent des mots cultes, bien, quand on est dans des toutes petites assemblées pour se déculpabiliser d'être si peu nombreux. Mais c'est bon de la réentendre dans son vrai contexte. Ce que j'aime dans ce petit passage, c'est d'abord qu'il s'agit de se mettre d'accord. Et le mot pour utiliser se mettre d'accord, c'est, un mot grec, symphonesophine. Alors, s'il y en a qui est un petit peu musical, ça veut dire symphonie. Voilà. Il s'agit de raisonner ensemble, d'être du même sentiment. Quand j'ai travaillé dans l'Église à d'autres échelons pour essayer d'introduire la médiation au sein des paroisses et avec les pasteurs, à plusieurs niveaux, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les conflits, on en parle. Eh bien, j'ai souvent entendu dire, mais ça ne sert à rien de proposer une médiation, les parties en présence ne seront pas d'accord sur la méthode. Alors, j'ai interrogé des médiateurs, et notamment, j'étais en contact avec une médiatrice avec la méthode de la communication violente, qui est une méthode que j'aime beaucoup. Et cette personne disait que la mise d'accord est le début du travail de médiation, justement. C'est justement pouvoir s'asseoir à la table et se dire, on fait quoi? Parce que, en ce moment même, on a tous le désir de vivre en paix, d'être en accord les uns avec les autres. Et d'être aussi entendu dans nos sentiments d'injustice. Et du coup, les médiateurs s'appuient sur ce besoin de conflit et travaillent par la parole sur cet accord à trouver. Alors, ce que propose Jésus, se mettre d'accord, ne concerne pas forcément des personnes en conflit. Peut-être cela concerne les personnes qui peuvent justement lier et délier, parce que c'est quand même une responsabilité. Tel que cela concerne tout chrétien, qui a à cœur de porter dans la prière ses frères et ses sœurs, nous sommes souvent impuissants à résoudre les conflits, à voir des gens qu'on aime se déchirer jusqu'au pays, sacrifier leur peuple pour la violence. Oui, Jésus nous invite à prier. L'action et l'engagement sont nécessaires et demandent souvent du courage. Mais il y a aussi un temps où nous devons reconnaître nos limites. Et à ce moment-là, on peut encore faire quelque chose ensemble. C'est prier. Se mettre en résonance sur des sujets que nous voulons porter au Père. Et ensemble, nous serons plus forts dans la prière. Nous pouvons demander quoi que ce soit, nous dit Jésus. Ça peut être la réconciliation, ça peut être le pardon, ça peut être guérir quelqu'un, ça peut être tout ce que nos cœurs portent. Et tout ce que nous-mêmes n'arrivons pas à faire. Par exemple, ce pardon qui peut nous guérir les blessures. Si nous sommes ensemble, à deux ou à trois, Jésus est présent dans la foi que nous avons de lui. Et se rassembler, il nous dit en son nom, c'est reconnaître la puissance de libération que lui y a mis en œuvre dans sa vie et qui nous demande à nous-mêmes de mettre en œuvre aussi. Prier Dieu au nom de Jésus, c'est se mettre à côté du Christ pour qu'il intercède aussi avec nous. L'objet de la demande au sujet de toute affaire. Et en fait, nous avons le mot pragmatos qui a donné pragmatique au français. C'est-à-dire, c'est en lien avec la réalité pratique. Une réalité donnée dans la rencontre avec l'autre, parce qu'évidemment, je peux vivre tout seul dans mon coin, et malheureusement, avec le confinement, on s'est rendu compte que c'était aussi possible, que les personnes s'enferment complètement seules chez elles. Et bien sûr, si je suis seule, ben, j'ai mes idées, j'ai ma lutte, et je ne risque pas d'être en conflit avec lui. Par contre, si je rencontre l'autre, si je prends le risque d'aller vers l'autre et de le rencontrer dans sa différence, alors du coup, eh bien, il y a toujours un risque de conflit, parce que la différence, parfois, me rencontre. mais justement, nous ne sommes pas seuls. Priez avec un ou deux frères, ou seuls. Eh bien, c'est savoir qu'on a besoin de Dieu. C'est lui montrer qu'on est là et qu'on a besoin de ce monde. Et puis, prier ensemble, c'est renforcer notre propre foi, en côtoyant la foi des autres. C'est se mettre en lien les uns avec les autres, autrement, dans la paix, la bienveillance, et rejoindre ainsi la communion invisible des croyants. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin? En cette journée où les relations masquées restent fragiles et craintives, puisons dans une prière à plusieurs la force de rester fidèle à Dieu, la force de rester dans une relation vivante et joyeuse dans la présence.